Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Aujourd'hui, nous continuons notre étude sur la deuxième épître de Pierre. Stéphane est de retour parmi nous pour nous aider à comprendre cette lettre peu connue et nous dire pourquoi il est important de saisir son message. Stéphane, bonjour.
Merci Yann, bonjour à tous. Depuis quelques émissions, nous examinons l'enseignement de Pierre concernant les prophètes qui annoncent des mensonges. Nous avons appris que ces faux enseignants étaient motivés par l'amour de l'argent et l'amour du sexe, qu'ils enseignaient des mensonges pour égarer les croyants et profiter des personnes vulnérables. Pierre, à juste titre, leur adresse des paroles dures et un avertissement du jugement à venir. Il les appelle à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, nous poursuivons nos discussions sur ce thème en examinant la suite du récit de Pierre. Avant d'en dire plus, nous allons céder la parole à notre lectrice et nous écouterons la lecture du chapitre 2 de la deuxième lettre de Pierre, versets 17 à 22.
Ces enseignants de mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau, comme des nuages poussés par la tempête. Dieu leur a réservé une place dans les ténèbres les plus profondes. Avec leurs discours grandiloquents, mais creux, ils cherchent pour satisfaire leurs désirs tout humains, à appâter par l'attrait de la sensualité ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivant dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si, après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste, plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme la vérité de ces proverbes. Le chien retourne à ce qu'il a vomi et la truie à peine lavée se vautre de nouveau dans la boue.
Merci. Ce texte soulève de nombreuses questions, mais il confirme ce que nous avons déjà appris.
Oui, cet extrait biblique confirme que ces faux enseignants étaient motivés surtout par leurs désirs sensuels et qu'ils enseignaient des mensonges pour encourager les gens dans ce sens, sans doute pour mieux profiter des autres. Ce genre d'enseignement se retrouve tout au long de l'histoire de l'Église. On peut le qualifier de libertinage.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le libertinage?
Oui, bien sûr. Le libertinage est tout simplement la pensée que nous pouvons faire ce que nous voulons de notre corps, que nous avons la liberté de satisfaire tous nos désirs, toutes nos passions, comme bon nous semble. Dans l'histoire de l'Église, le libertinage est parti en suivant divers raisonnements, mais toujours pour arriver à cette même conclusion. Nous avons le droit de faire ce que nous voulons. Ceux qui enseignent le libertinage s'appuient parfois sur de belles vérités bibliques, comme par exemple celle du pardon et de la grâce. Mais ils en tordent le sens véritable pour arriver à l'idée que nous pouvons nous livrer à nos désirs et passions sans courir de risques, ni en subir les conséquences. En bref, les libertins justifient la pratique du péché et l'encouragent. Ils arrivent à persuader des gens que ce qui est mauvais est en fait bien.
Et selon Pierre, cet enseignement est mensonger et dangereux.
Oui, ce n'est pas simplement Pierre qui le dit. Nous pouvons affirmer que tous ceux qui, sous l'inspiration de l'Esprit, ont écrit la Bible, dénoncent le libertinage. La vision biblique de ce que représente une véritable vie de foi est tout à fait différente de la pensée des libertins.
Et quelle est donc cette vision biblique d'une vie qui marche par la foi?
En bref, Dieu nous sauve pour que nous vivions la sainteté. Selon la Bible, nous appartenons à Dieu. Nous lui appartenons d'abord parce qu'il nous a créés, et ensuite nous lui appartenons parce qu'il nous a rachetés par l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Puisque nous appartenons à Dieu, et pour nous protéger, Dieu nous dit comment nous devons nous comporter. Puisque nous appartenons à Dieu, nous devons chercher à comprendre quelle est sa volonté pour nos vies. De diverses manières, la Bible nous enseigne que la volonté de Dieu est que nous poursuivions la sainteté. Si nous refusons de nous soumettre à la volonté de Dieu, pour à la place satisfaire nos propres désirs impurs, nous nous rebellons contre Dieu. La poursuite du libertinage est donc un acte de révolte délibérée contre Dieu. Et Pierre nous avertit que des conséquences graves attendent celles et ceux qui s'obstinent dans cette voie.
Vous avez dit qu'au lieu de satisfaire nos désirs charnels, nous devons rechercher la sainteté. Mais comment définir la sainteté? Quelle est la volonté de Dieu pour nos vies?
La Bible répond à cette question de diverses manières. Et les 10 commandements représentent un bon point de départ. Ils nous aident à comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. Ils nous aident à définir la sainteté à laquelle nous devons aspirer. Dans le premier chapitre de sa lettre, Pierre donne lui-même une définition de cette vie de foi vers laquelle nous devons tendre. Au chapitre 1, il écrit, au verset 5 à 7, « Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi l'excellence morale, à l'excellence morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. » Notons bien que Pierre mentionne la maîtrise de soi. Les libertins affirment que l'on n'a pas besoin de maîtriser ses passions et ses désirs. Ils affirment même que l'on peut faire ce que l'on veut pour les satisfaire. Pierre, comme tous les apôtres, nous enseigne que la volonté de Dieu consiste entre autres à apprendre à maîtriser tous nos désirs, ainsi que nos paroles et nos gestes. Selon l'apôtre Paul, la maîtrise de soi est le fruit de l'esprit. Si donc une personne refuse d'apprendre à se maîtriser, elle s'oppose à l'œuvre de l'esprit. Nous pouvons aussi en conclure que le libertinage ne vient absolument pas de l'esprit de Dieu. Et de la même manière, les soi-disant prophètes qui enseignent le libertinage ne sont pas animés par l'esprit de Dieu.
Pour revenir au texte lu, Pierre dément l'enseignement des faux prophètes. Ces personnes affirment que leur pensée conduit à la liberté, mais selon Pierre, ils tombent dans l'esclavage. Expliquez-nous cela, s'il vous plaît.
Oui, c'est une leçon importante que nous devons tous retenir. Le péché a une apparence attirante et séduisante. Nous pouvons croire que nous serons libres en faisant ce que nous voulons. Nous pensons que nous deviendrons heureux en satisfaisant tous nos désirs et nos passions. Mais ce sont des mensonges qui piègent de nombreuses personnes et les rendent malheureuses, les exposant de la même manière au jugement de Dieu. En fait, lorsqu'une personne se livre à des désirs sexuels ou autres, elle se fait piéger dans un engrenage dont il est très difficile de sortir. Le corps et le cœur s'habituent au péché, et un genre de dépendance s'établit. On a soif d'accomplir le plus souvent ses passions, et on sombre plus profondément dans le mal. Il devient difficile de s'arrêter. Au début, on pense que l'on pourra maîtriser la situation, mais le péché finit par dominer et l'on en devient esclave. L'amour du sexe peut entraîner un tel engrenage, l'amour de l'argent aussi. La consommation de l'alcool ou des drogues illicites conduisent aussi à la dépendance et à l'esclavage. Enfin, toute pratique du péché crée ce genre de cercle vicieux. Vous pensez sans doute à d'autres exemples. Pensez aux personnes qui pratiquent la pêche à la ligne. Pour attirer le poisson, ils mettent un petit ver sur un hameçon qui sert d'appât. Le poisson voit le petit ver dans l'eau, il pense qu'il aura un bon repas. Cependant, en mordant le ver, il est pris par l'hameçon. Il est piégé. Le pêcheur l'a attrapé. Eh bien, le mal prend souvent une apparence attirante. Mais faites attention, car derrière se cache un piège. Le mal se referme sur ses victimes. Il domine sur elles, les rend esclaves et les destine aux ténèbres.
Et cet enseignement représente un avertissement, non seulement pour les faux enseignants, mais pour toute personne, tout chrétien.
C'est exact, Ian. Ce danger nous guette tous. Cependant, il est évidemment plus facile de tomber dans le piège lorsque nous prêtons l'oreille à des prophètes de mensonges. D'ailleurs, comme Pierre le rappelle, les chrétiens mal affermis et les nouveaux convertis sont particulièrement vulnérables, car ils manquent du discernement nécessaire pour reconnaître puis éviter les faux enseignants. Il est de la responsabilité des églises averties de bien enseigner les nouveaux disciples sur ce point.
Merci Stéphane. Que Jésus nous garde sur le bon chemin de la sainteté. Pour revenir au texte lu, nous apprenons que Dieu garde en réserve une place au plus profond des ténèbres pour ses faux enseignants. Il semblerait qu'il existe des degrés différents dans les ténèbres. Peut-on aller jusqu'à dire que le châtiment qui attend ces faux enseignants est pire que celui qui attend d'autres personnes?
Il est vrai que ce texte semble aller dans ce sens. Vivre dans le libertinage, le péché, est un mauvais choix et mérite le jugement. Cependant, enseigner délibérément le libertinage et délibérément pousser d'autres à le pratiquer est encore pire. Et Dieu est juste. Nous ne savons pas en quoi les uns et les autres auront un châtiment différent.
Et c'est un avertissement solennel, et cela charge d'une lourde responsabilité ceux qui enseignent.
C'est vrai, Yann. L'apôtre Jacques le confirme dans sa lettre au chapitre 3. Au verset 1, il dit « Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. » Il est important que toute personne qui prétend enseigner la Bible comprenne la véritable bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et surtout, il ne faut pas détourner le sens de la Bible, ni pour servir ses propres intérêts, ni pour satisfaire ses propres désirs. Ce chapitre est très clair. Dieu réserve un châtiment particulièrement sévère aux faux enseignants qui égarent les gens loin de la vérité, pour les conduire vers l'immoralité et la convoitise.
Merci. Et c'est sur cette note d'avertissement que nous terminons notre discussion aujourd'hui. Nous appelons tout croyant à faire des efforts pour bien comprendre le véritable message de Jésus-Christ. Nous appelons également tout croyant à faire preuve de discernement pour pouvoir identifier et éviter les enseignants de mensonges qui mettent notre foi en danger. Stéphane, j'ai bien d'autres questions sur le texte que nous avons lu. Je voudrais notamment savoir si les enseignants de mensonges étaient auparavant de véritables chrétiens ou non, et donc s'il est possible de perdre son salut.
Oui, je vois bien que ce texte peut susciter ce genre de questions. Je reviendrai la prochaine fois pour y répondre. En attendant, je dis à tous au revoir.
Merci Stéphane. Nous attendons donc notre prochaine émission pour écouter la suite et la fin de nos discussions sur ce deuxième chapitre de la deuxième lettre de Pierre. En espérant vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.